France Inter.
Le journal Alexis Morel. Bonjour Alexis.
Bonjour Laetitia, bonjour à tous. Ils négociaient âprement depuis lundi matin. En vain, échec des pourparlers sur l'emploi des seniors entre syndicats et patronats. Le gouvernement va reprendre la main, nos précisions à suivre. L'exécutif qui aura sans doute du mal à appliquer sa taxe lapin pour les rendez-vous médicaux non honorés. Doctolib s'y oppose, info France Inter. La collaboration de la plateforme était pourtant essentielle, vous l'entendrez.
Et on complétera avec notre invité, Frédéric Bizard, économiste de la santé. Que signifie ce refus? Est-ce à l'assurance maladie de prendre le relais? La taxe lapin est-elle morte-née? On en parle donc à 6h20.
À suivre aussi l'offensive sur Rafah, peu probable à courte échéance à Gaza. On vous expliquera pourquoi. Et au tournoi de tennis de Monte-Carlo, c'est déjà la Cinermania.
France Inter.
3 mois et demi de discussion laborieuse et pour rien.
Syndicats et patronats ont interrompu au beau milieu de la nuit leurs négociations sur l'emploi des seniors et le parcours professionnel sur un constat d'échec. Malgré 48 heures d'ultime tractation, le texte proposé par le MEDEF contenait trop de lignes rouges selon les organisations syndicales. Camille Marigot.
La cinquième version du texte aura eu raison de cette négociation pour les syndicats. L'accord présenté par le patronat n'apporte aucun nouveau droit pour les salariés, seulement moins de destruction que prévu et surtout de grands manques, résume Force Ouvrière. Globalement, depuis le début de cette négociation, les positions semblaient difficilement conciliables. Le compte épargne temps universel voulu par la CFDT avait été rayé du texte par le MEDEF et la CPME qui tenaient de leur côté absolument à la création d'un CDI senior, une des lignes rouges posées par les syndicats. Ces derniers diront dans les jours qui viennent s'ils signent ou pas cet accord, mais ce matin, la vie semble partagée. C'est un moment raté, regrette la CFE-CGC qui se demande est-ce qu'on aura encore entre syndicats et patronat un jour l'occasion de négocier sur cette question des transitions professionnelles. Rien n'est moins sûr, même si, à l'exact opposé, le MEDEF salue un travail de qualité entre partenaires sociaux, tout en regrettant l'intransigeance des syndicats.
C'est donc le gouvernement qui devrait désormais reprendre la main, et ce n'est pas anodin, alors que se profile une nouvelle réforme de l'assurance chômage. Le début d'un très long parcours politique pour le projet de loi fin de vie, présenté ce matin en Conseil des ministres. Ce texte ô combien sensible qui prévoit une aide à mourir strictement encadrée pour certains patients, autrement dit une assistance au suicide, même si l'exécutif se refuse à employer le mot. L'Assemblée s'en saisira ensuite une première fois fin mai, mais le processus parlementaire, lui, pourrait prendre au moins 1 an et demi au total.
5 euros en cas de rendez-vous médical non honoré.
C'est le principe de la taxe lapin que Gabriel Attal a annoncé ce week-end. Elle s'appliquerait aux patients qui n'ont pas prévenu au moins 24 heures à l'avance leur médecin. Mais concrètement, comment prélever cette somme? L'idée serait de demander une empreinte bancaire quand on prend un rendez-vous sur une plateforme en ligne. Problème, la première d'entre elles, Doctolib, poids lourd du secteur, n'y est vraiment pas favorable. C'est une info France Inter signée Victor Dolande.
Pour Doctolib, la lutte contre les rendez-vous non honorés est une priorité depuis sa création en 2013. Grâce à des questionnaires internes, la plateforme connaît même les 3 causes précises de ces lapins. L'oubli, l'annulation, qui est impossible, ou l'incivilité. La taxe lapin Doctolib y est donc favorable, mais sur la forme, pas question de demander au patient son empreinte bancaire avant de prendre un rendez-vous. Stanislas Gnocchiato, cofondateur et PDG de Doctolib.
Il ne faut pas créer un fardeau administratif nouveau pour les soignants et entraver l'accès aux soins. Il y a 20% des patients qui sont en situation d'électronisme et 5% qui n'ont pas de carte bancaire. C'est impensable d'entraver l'accès aux soins pour eux.
Et pour les médecins qui ne sont pas sur les plateformes comme Doctolib, l'empreinte bancaire serait encore plus compliquée à mettre en place.
Comment vont faire les praticiens pour gérer la majorité des rendez-vous qui ne sont pas pris en ligne? Comment vont faire les praticiens pour gérer les plaintes des patients, les contestations des patients? C'est inimaginable d'envisager que les secrétariats vont enregistrer des cartes bancaires.
Pour le PDG de Doctolib, les médecins doivent garder la main impérativement sur cette taxe lapin pour savoir quel patient il faut sanctionner. Ils pensent aussi que c'est à l'assurance maladie de gérer cette taxe lapin en prélevant par exemple les 5 euros sur le rendez-vous suivant du patient.
Et donc on y revient avec votre invitée Laetitia dans un quart d'heure. L'opposition unanime des syndicats et de la gauche n'y a rien changé. Le Parlement adopte définitivement la réforme de la sûreté nucléaire. Cette fusion si controversée entre les 2 instances de contrôle de la filière, l'ASN et l'IRSN, dès l'année prochaine. Pour ses détracteurs, cette nouvelle organisation fait peser un risque de perte d'indépendance des gendarmes français du nucléaire.
La grande réforme de la politique migratoire européenne est devant les eurodéputés.
Ils doivent se prononcer aujourd'hui sur le pacte asile-immigration, imaginé pour faire face à l'augmentation des demandes d'asile et des entrées irrégulières dans l'UE. Ce texte prévoit que les pays d'entrée des migrants, Grèce, Italie, Espagne, devront désormais enregistrer toutes les demandes d'asile, puis répartir les exilés. Ceux dont on estime qu'ils ont moins de chances d'obtenir l'asile seront retenus dans des centres près des frontières. En échange, les autres États membres auront une obligation de solidarité entrée en vigueur prévue en 2026. Joe Biden en remet une couche sur Netanyahou pour le président américain. Le dirigeant israélien fait une erreur à Gaza. Le premier ministre de l'État hébreu reste pourtant déterminé à lancer une offensive sur Rafah malgré les pressions étrangères. Déterminé dans les mots en tout cas, car au vu de la réalité sur le terrain, Eric Biegala, ça ne pourra pas se faire avant plusieurs semaines au moins.
Avec le repli de la 98e division de Khan Younes, annoncée dimanche et qui est déjà en bonne partie réalisée, autour de 10 000 hommes sont en train de quitter Gaza avec leurs blindés lourds, l'armée israélienne ne dispose plus des moyens humains et matériels nécessaires pour lancer une attaque au sol sur la zone fortement urbanisée et très densément peuplée de Rafah. Les forces armées devraient laisser sur le terrain quelques éléments de leur 162e division, notamment la brigade Nahal, quelques 5-6 000 hommes, qui prendront position autour de ce que l'on appelle le couloir Netzarim, un axe nouvellement construit qui coupe la bande de Gaza en deux, d'est en ouest, la partageant entre Gazaville au nord, le centre de l'enclave Khan Younes et Rafah au sud. La brigade Nahal, c'est à peine 15% du volume de forces engagées au plus fort des combats. Cela ne veut pas dire que les tirs sur le sud de l'enclave et notamment sur Rafah vont cesser, mais il s'agira de tirs plus ciblés, opérés par l'aviation et visant en priorité les cadres du Hamas ou du djihad islamique, s'ils sont repérés, à moins, bien sûr, d'un cessez-le-feu.
Eric Biegala, un adolescent de 15 ans tué hier soir à Romans-sur-Isère dans la Drôme, poignardé dans le dos dans le quartier de la Monnaie vers 22h. Il a succombé à ses blessures à l'hôpital. Nathalie de Kayser, les faits se sont produits en pleine rue au pied d'un immeuble.
Dès hier soir, le procureur de la République de la Drôme, Laurent Dequeny, a confié l'enquête à la division de la criminalité organisée et spécialisée, anciennement appelée police judiciaire. Pourtant, la jeune victime était inconnue des services de police ou de justice. Ce garçon, qui allait avoir 16 ans le mois prochain, n'avait pas de casier judiciaire. Mais d'après les premiers éléments, cet ado aurait pu avoir une embrouille, comme on dit, pour un motif futile. Une dispute débutée lundi soir qui aurait donc redémarré hier avant de dégénérer jusqu'à ce coup de poignard dans le dos. L'adolescent s'est effondré, très gravement touché. Il a reçu les premiers soins sur place au pied d'un immeuble avant d'être transporté à l'hôpital avec un pronostic vital engagé. Il est mort quelques dizaines de minutes plus tard. Les policiers, eux, ont passé une partie de la nuit à quadriller tout le quartier de la Monnaie à la recherche du ou des agresseurs.
Les précisions de France Bleu Drôme Ardèche.
Sécurité considérablement renforcée à Paris.
Avant le match de Ligue des Champions, ce soir, quart de finale aller entre le PSG et le FC Barcelone, après des menaces du groupe État islamique sur les réseaux sociaux contre tous les quarts de finale de la compétition. Une réunion s'est tenue en urgence hier soir, place Beauvau, pour organiser le dispositif. Mais hier soir, les deux premiers quarts de finale à Madrid et Londres se sont déroulés sans encombre, avec sur le terrain deux matchs nuls, mais néanmoins spectaculaires entre le Real et Manchester City. 3-2. Arsenal et le Bayern se sont eux neutralisés 2-2. Au Masters 1000 de tennis de Monte Carlo, l'entrée en lice aujourd'hui de la star du moment, l'Italien Yannick Sinner, numéro 2 mondial, face à l'Américain Sebastian Corda. Il pourra compter sur son public venu en voisin, puisqu'en Italie, Fabrice Abgral, c'est déjà la Sinner Mania.
L'Italie a trouvé son champion et les tifosi n'hésitent pas à se déplacer à Monaco pour voir jouer Yannick Sinner. La principauté n'est qu'à 12 km de la frontière italienne, alors forcément ça joue sur la billetterie. Philippe Poli est le directeur adjoint du tournoi.
Aujourd'hui, sur la réservation, on oscille entre 40 et 42% de clientèle italienne présente sur le site. Donc on a à peu près 10% d'augmentation.
Et parmi les fans de Yannick Sinner, il y a Bruno, 76 ans, né à San Remo.
C'est un peu un rayon de soleil pour les Italiens parce que ça fait tellement longtemps qu'on attendait quelque chose comme ça. Maintenant, on est en train de remonter et on la remonte de la meilleure des façons. On ne pouvait pas avoir mieux, pourvu que ça dure et tout va bien.
25% des journalistes présents à Monte Carlo sont italiens. C'est 10% de plus que l'an passé. Il faut dire que la popularité de Yannick Sinner a littéralement explosé après son triomphe à l'Open d'Australie en janvier dernier. Ubaldo Scanagata dirige le site Ubitennis.
J'avais jamais vu, par exemple, un jour de championnat de foot, 5 pages sur la Gazzetta dello Sport, quotidien sportif italien, et même tous les autres, et dans la première page aussi des journaux politiques.
Mathématiquement, Yannick Sinner pourrait devenir numéro 1 mondial dans les semaines à venir. Pour l'heure, il est numéro 2. Jamais avant lui, un Italien n'avait atteint ce classement.
Et côté français, ils seront deux sur les cours aujourd'hui en principauté. Gaël Monfils et Hugo Humbert vont tenter de se qualifier pour les huitièmes.
Merci Alexis Morel. À 6h10, on poursuit avec le sport, car c'est l'esprit sport. Bonjour Cédric Guillou.
Bonjour Laetitia.
Il avait glissé devant Emmanuel Macron lors de l'inauguration du centre aquatique olympique de Saint-Denis la semaine dernière. Le plongeur Alexis Jandard revient avec une vidéo qu'il a mis en ligne.
Oui, sa jambe s'était dérobée au moment de sa prise d'appui sur le tremplin, chute qui avait fait beaucoup rire, qui fait encore le tour des réseaux sociaux. Et depuis, Alexis Jandard joue la fond la carte de l'auto-dérision. Alors c'est une scène qui aurait pu le discréditer. Au contraire, Laetitia, le médaillé de bronze au championnat du monde de natation 2023 assume, il se marre et il propose effectivement une nouvelle vidéo avec l'aide de la Fédération Française de la Loose, qui aime célébrer la France qui perd. Vous connaissez ce compte, c'est un compte qui met en avant avec beaucoup d'humour les défaites et les déboires des sportifs français. Alors Alexis Jandard, membre de l'équipe de France, on le rappelle, qui va participer aux Jeux Olympiques, revient sur les coulisses de sa chute, là encore avec beaucoup d'humour et de fraîcheur.
Salut, c'est Alexis Jandard. Pour la FFL, je vous emmène faire un petit tuto comment rater son plongeon. Allez, venez avec moi. Alors là, je vous emmène dans la salle de muscu. Bon, c'est là où on s'échauffe. Moi, je vous conseille de toucher à rien. C'est plus efficace.
Voilà, la vidéo continue avec le passage sous les douches. On voit Alexis Jandard s'enduire les pieds de savon de Marseille pour glisser sans souci. Il y a ensuite le passage par le pédiluve. Et là, c'est le drame.
Ah putain, le pédiluve, je dois tout recommencer.
Voilà, il remet du savon sous les pieds, il poursuit sa vidéo et se retrouve sur le tremplin. Mais ça se conclut par un magnifique plongeon, un triple saut parfait, loin du coup de l'objectif affiché de glisser de nouveau.
Ouais, mais j'y arrive plus aussi. Pas de caméra, pas de président. Ah, vivement les jeux.
Alors pour finir, Alexis Jandard reçoit symboliquement une carte de membre de la Fédération Française de la Loose. En tout cas, c'est une mésaventure qui a mis un sacré coup de projecteur sur cet inconnu du grand public et sur sa discipline du plongeon avant sa prochaine participation aux Jeux de Paris. Jandard qui prendra part au tremplin synchronisé à 3 mètres.
Merci Cédric Guillou, c'était l'Esprit Sport.